À rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'une encyclique du pape. On parle si peu des encycliques maintenant que on peut lire parfois dans des revues, des articles, que les encycliques sont inconnues finalement. Et celle-là, dont on a quand même parlé, mais elle est peu connue, c'est Foi et raison de Jean-Paul II. C'est une encyclique récente. Et Jean-Paul II l'adresse au fond à un monde qui doute de tout. Hein? C'est pas d'aujourd'hui que le monde a commencé à douter de tout. C'est donc une émission spéciale aujourd'hui qui veut répondre à la demande d'une religieuse, sœur Lucille Durocher, qui écrivait il y a 5 ans et plus de 5 ans que il y a un silence tragique qui plane au-dessus des paroisses catholiques d'Amérique du Nord et un peu même du reste du monde catholique. C'est un silence qui est d'ailleurs une des causes qui contribue à la confusion de la foi parmi le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, les catholiques, sont confus. C'est un silence qui n'est pas celui de Dieu, c'est un silence vraiment des plus terribles et destructifs, et spécialement aujourd'hui où les médias diffusent un flot continu d'erreurs, hein, on en entend de toutes les sortes. Les médias diffusent des désinformations qui sont absolument nuisibles à la foi. Mais ce silence dont sœur Durocher parle, quand elle veut paraphraser les paroles du prophète Amos, là, Amos dit, bon, il y a plus de 2500 ans, « Voici venir des jours, oracle du Seigneur mon Dieu, où je répandrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain ni la soif de l'eau, mais celle d'entendre l'enseignement du pape Jean-Paul II. » C'est une bonne paraphrase. Ce n'est pas que le silence soit total, je vous l'ai dit, on en parle ici et là dans des revues religieuses, on peut prendre connaissance d'ailleurs des enseignements du pape dans des bureaux nationaux de l'Église, là, ou des bureaux diocésains, comme à l'archevêché, ici à Montréal, ou dans les évêchés. Il y a aussi des journaux et des magazines catholiques qui publient souvent des extraits, même assez importants, des enseignements du pape, mais on peut dire que depuis une dizaine d'années, on peut lire dans l'Osservatore Romano, moi personnellement, je peux lire assez souvent des enseignements du pape dans l'Osservatore Romano. C'est pas d'aujourd'hui que c'est publié, mais je m'y suis mis un peu. Et on se rend compte que la plus grande partie de ce que le pape enseigne, que je lis là, ne parvient jamais jusque à l'ensemble des catholiques. Parce que le pape prononce, savez-vous, chaque jour des homilies, des causeries aux évêques, aux religieux. C'est pas toujours les choses les plus intéressantes, mais il y a des affaires fantastiques, assez souvent merveilleuses. Et ça tombe à plat. C'est dommage, car il parle à divers groupes qui viennent en visite à Rome. Et la plupart de ces enseignements, donc, n'arrivent jamais jusqu'à nous. Et la majorité de nos catholiques ne sont pas même conscients. Saviez-vous ça? Ils sont même pas conscients que le Vatican publie un hebdomadaire qui s'appelle le Osservatore Romano. C'est en français. On peut l'avoir en français. Qui rapporte les enseignements du pape. Et alors, ils savent même pas ce que ça contient. Puis, lorsque paraît une nouvelle encyclique, comme celle dont je vais vous parler aujourd'hui, bien, la plupart des catholiques n'en savent rien, absolument rien. Alors, dans cette émission, je voudrais que on en arrive à comprendre que, pour beaucoup de nos contemporains, de comprendre avec le pape, là, que pour beaucoup de nos contemporains, la religion est perçue comme une menace. La religion, surtout catholique, est perçue comme une menace parce qu'on n'attaque pas les autres religions. On n'ose pas attaquer l'islam, de crainte de vengeance, quoi, de la part d'une faible minorité des musulmans, qui est plutôt violente. On n'attaque pas non plus la religion juive après l'Holocauste. On n'ose pas. C'est évident. Et puis, on n'attaque pas, en général, le bouddhisme. Au contraire, on le porte au nu actuellement avec le Dalai Lama, Et puis j'ai lu un de ses livres, c'est fort intéressant. Et on attaque que le catholicisme, finalement, c'est incroyable, ou à peu près. Parce que la religion est considérée ou perçue comme donc une menace contre les libertés. Une menace contre les libertés. Hein? Jean-Paul Sartre était convaincu de ça. Tandis que de leur côté, beaucoup de croyants sont craintifs devant une science étrangère à toute préoccupation morale et spirituelle. Alors, devant les savants, ils prennent peur. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. La science ne s'oppose pas à la foi. Au contraire, dans cette émission admirable qui a été diffusée hier sur le pape Jean-Paul II, qui sera rediffusée ce soir à PBS à 8h, ça se termine avec des réflexions des savants devant la science contemporaine, qui nous permet non seulement de découvrir de plus en plus les milliards de galaxies qui forment cet univers fantastique est en expansion, en explosion, selon la théorie du chanoine Georges Lemaître qui date des années 20, grand astronome, mais aussi le monde des infiniment petits, des êtres vivants extrêmement petits. Et un savant disait à la fin de l'émission que ces recherches scientifiques l'amènent au pied de Dieu, l'amènent à reconnaître l'existence de cet être extraordinaire qu'est Dieu. Parce que l'opposition caricaturale entre science et foi est balayée dès les premières lignes de l'encyclique. Écoutez ce que le pape dit. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu, dit le pape, qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité. Et au terme, à la fin, de le connaître lui-même, Dieu. C'est vrai que l'homme a besoin de ces deux ailes pour s'élancer vers la vérité. Parce que dans sa quête, dans sa recherche, l'esprit humain dispose, au total, d'une double démarche. D'une part, celle des sciences et de la philosophie, qui, à partir de l'expérience, tente chacune, là, les sciences, la philosophie, avec ses propres moyens de recherche, d'investigation, de remonter des effets aux causes. On veut savoir quelles sont les causes de ce que l'on constate. Et d'autre part, il y a pour l'esprit humain une démarche qui est très importante et négligée de plus en plus de nos jours, c'est la théologie, la vraie, qui, partant de ce que Dieu dit de lui-même, de la création, puis de la libération ou de la rédemption de l'humanité, la théologie s'efforce par un discours rationnel, finalement, un discours où elle utilise sa raison, la théologie. Et par là, bien, elle est scientifique dans un sens. Elle cherche à pénétrer et à expliciter toujours davantage, quoi? Ce grand mystère divin. Et quand on fait comme ces savants à la fin du film, là, qui reconnaissent ce mystère divin, mais qu'est-ce qui en résulte pour l'homme? Est-ce qu'on va dire Dieu existe et ça finit là, et il est dans une espèce de boule solide, et puis on n'en a rien à faire? Or, ces deux démarches de la science et de la philosophie, là, puis de la théologie d'autre part, ça ne doit pas être confondu, car on les ruinerait, mais elles ne doivent pas non plus s'ignorer, c'est sûr. Et encore moins être opposées comme des ennemis, ce ne sont pas des ennemis, à moins qu'on veuille empêcher l'homme de prendre son envol vers la vérité tout entière, pour la connaître, la contempler, l'aimer, la vérité. Et l'amour est en effet le nœud des rapports entre la foi et la raison. Il faut établir l'amour entre la foi et la raison, et c'est le cœur de l'encyclique de ce pape. D'accord, on parle de la folie de la croix. Hein? Quand on a la foi et qu'on veut aller jusqu'au bout, on est un peu fou de Dieu. On parle dans des livres des folles en Christ, F-O-L-S, masculin, c'est masculin, c'est folle en Christ. Et on en parle surtout en Russie. Des gens qui vont jusqu'au bout d'une espèce de folie merveilleuse, ils n'ont pas perdu la raison, mais ils sont passionnés. Et l'amour, donc, est le nœud des rapports entre la foi et la raison. Mais que devient la science sans l'amour de la vérité? La science nous conduit dans des dédales épouvantables si elle n'aime pas la vérité. Et que devient la théologie sans l'amour de Dieu? Ben, elle est rêche sèche. Lorsque Hans-Urs von Balthasar nous a accordé à Marcel Brisebois et à moi deux entrevues uniques que nous avions tournées à Bâle chez lui, il disait bien, si vous vous souvenez, que tout théologien doit rechercher la sainteté. C'est-à-dire rechercher à se laisser prendre par l'amour de Dieu et à l'aimer le plus possible. Parce que sans ça, la pensée s'égare, dit le pape, dans des sables mouvants d'un scepticisme général. Des sables mouvants, on voit ça dans des films, hein, quand des gens s'aventurent dans des sables mouvants, ils sombrent petit à petit. Et ça donne des cauchemars. Moi, ça me donne des cauchemars quand je vois ça au cinéma. Évidemment, ce sont des acteurs, mais c'est terrible. La pensée, dit le pape, s'égare dans les sables mouvants d'un scepticisme général. On a perdu l'espérance, dit le pape, d'atteindre la vérité. Il dit aussi, tout devient opinion. Ben oui, il n'y a plus de vérité. Il ajoute aussi, par fausse modestie, on se contente de vérités partielles et provisoires, sans plus chercher à poser des questions radicales sur le sens et sur le fondement ultime de la vie humaine, personnelle et sociale. Il faut bien qu'il y ait un sens. Puis, évidemment, est-ce qu'on se pose des questions sur la validité de la parole de Dieu? Comment? Il y a eu ces films à Radio-Québec dont je vous ai déjà parlé, cette série d'exégètes, qui en arrive, certains d'entre eux, à nous dire qu'il n'y a presque plus de validité à la parole de Dieu. La crise de la civilisation contemporaine, elle est métaphysique. Métaphysique. C'est-à-dire qu'elle tient, elle part du problème, très simple, au fond, de la partie de la philosophie, si on peut dire, qui traite des causes premières de l'être, avec un E majuscule, c'est-à-dire de Dieu, quoi. La métaphysique, c'est ça. Et c'est dommage, parce que la crise de la civilisation contemporaine nous montre bien qu'elle a perdu jusqu'au désir du sens. On se lève le matin et on ne sait pas pourquoi, et on se couche et on ne sait pas pourquoi. On fait un ou deux enfants, par égoïsme un peu, ou par hasard. Et on meurt et on ne sait pas pourquoi. D'où l'appel pressant du pape dans cette encyclique aux évêques et à l'Église catholique pour qu'ils osent témoigner de l'harmonie entre la raison et la foi. Et comment ne pas voir la conséquence pratique sur les universités catholiques, dans nos facultés de théologie, sur les séminaires, les grands séminaires. Il faut sortir des oubliettes cette philosophie, la philosophie de l'être, prodigieusement développé, à mon sens, par saint Thomas d'Aquin, je passerai pour un dinosaure, mais ça ne fait rien, et dont ni la science ni la théologie ne sauraient se passer. Il faut, en somme, réembaucher cette servante indispensable en l'adaptant d'accord à notre temps pour répondre aux défis d'une science sans conscience, d'une philosophie qui n'est que du paraître, du blablabla, ou bien de ce fidéisme que l'on voit de plus en plus, qui réduit la foi à un mythe ou à une superstition. Faut se décider. Faut donc se référer à ce texte, Foi et raison, cette encyclique du pape. Alors, cette encyclique du pape, Foi et raison, nous montre bien qu'il y a un rapport vital entre les deux. La foi, c'est pas n'importe quoi. Ça se raisonne. On doit utiliser notre intelligence. C'est la 13e lettre encyclique du pape Jean-Paul II. Il l'a signée le 14 septembre 1998, en la fête, vous le savez, de la Croix glorieuse. Il était dans la 20e année son pontificat, ça fait déjà longtemps qu'il est pape. Il l'a intitulé « Foi et raison » parce que vraiment, il veut aller au cœur de cette chose, puis s'adresse aux évêques de l'Église catholique, aux philosophes et aux théologiens, mais aussi, écoutez bien, il l'adresse à toute personne susceptible, parmi nous, là, de s'intéresser à ce sujet capital, dit-il, des relations entre la foi et la raison. À travers le thème des rapports de la foi et de la raison, bien, cette encyclique, ben c'est un hymne, c'est comme un hymne, on pourrait dire, ça pourrait être presque chanté. C'est un hymne véritable à la grandeur de l'intelligence humaine que Dieu nous a donnée. Car la raison est naturellement faite pour la vérité. Pour ça que Dieu nous l'a donnée. Et elle est purifiée dans sa démarche vers la vérité par la foi. Jean-Paul Dieu le dit bien, hein? Il dit « La foi et la raison sont les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Hein, » je vous l'ai dit tout à l'heure. Dès le début, d'ailleurs, de son introduction là, à cet encyclique, Jean-Paul II se fait le défenseur de la raison humaine. C'est très beau, je vous lis son texte. « Un simple regard sur l'histoire ancienne montre clairement qu'en diverses parties de la Terre, marqués par des cultures différentes, là, naissent en même temps les questions de fond qui caractérisent le parcours de l'existence humaine. » Et Jean-Paul II a dit, il explique quelles sont les questions. Il les cite. « Qui suis-je? D'où viens-je? Et où vais-je? Pourquoi la présence du mal? Qu'y aura-t-il après cette vie? » Ces interrogations, dit le pape, sont présentes dans les écrits sacrés d'Israël, mais elles apparaissent également dans les Védas ainsi que dans l'Avesta. Nous les trouvons dans les écrits de Confucius et de Lao-Tzu. Je vous ferai une émission sur Lao-Tzu dans quelques mois. Comme aussi dans la prédication des Tirthankara et de Bouddha, dont je vous ai déjà parlé. Ce sont encore elles, dit le pape, que l'on peut reconnaître dans les poèmes d'Homère et dans les tragédies d'Euripide et de Sophocle. Oh, ça date d'il y a longtemps, vous connaissez ça, ça date d'avant Jésus-Christ. De même que dans les traités philosophiques de Platon et d'Aristote, il en va de même pour eux. Et il ajoute, ces questions, que je vous ai citées tout à l'heure, ont une source commune, c'est la quête de sens qui depuis toujours est pressante dans le cœur de l'homme, car de la réponse à ces questions dépend l'orientation à donner à l'existence. C'est très important. Fondamental. C'est pour ça qu'il faut enseigner ça à nos enfants. Et ça s'enseigne bien dans des écoles où le catholicisme a une part profonde, avec des professeurs intelligents. Le catholicisme peut donc transmettre ses vérités. Le pape dit, l'Église se doit d'être attentive à ce parcours de recherche. Elle qui a reçu en Jésus-Christ le don de la vérité ultime sur la vie de l'homme. Ce sont des affirmations, vous direz, audacieuses, mais ce sont des affirmations auxquelles, personnellement, je crois. Nous avons reçu de Jésus-Christ le don de la vérité ultime sur la vie de l'homme, oui. C'est pourquoi l'Église tient en haute estime la philosophie. En tant qu'elle contribue directement à poser la question du sens de la vie, et en tant qu'elle est le moyen de connaître des vérités fondamentales qui concernent l'existence de l'homme, comme dit le pape. Mais si l'Église défend la philosophie comme amour de la sagesse, c'est parce qu'elle dénonce le danger qui la menace. En effet, la philosophie est très menacée, la philosophie moderne. Elle a concentré son attention sur l'homme. Et comme dit le pape, elle semble avoir oublié que celui-ci, l'homme, est également toujours appelé à se tourner vers une vérité qui le transcende. La philosophie s'est confinée depuis des années dans les limites de la raison. La raison réduite à la connaissance des phénomènes. Oui, la philosophie moderne a induit, dit le pape, diverses formes d'agnosticisme, c'est-à-dire de gens qui sont plus sûrs de rien. Dieu existe-t-il, n'existe-t-il pas, on n'affirme rien. Qu'est-ce que l'homme, on ne sait pas. C'est l'agnosticisme, ne pas savoir. Donc, oui, la philosophie moderne a induit diverses formes d'agnosticisme et de relativisme aussi. Bon, tout est vrai, tout est faux, n'importe quoi. Ces formes-là ont conduit la recherche philosophique, dit le pape, à s'égarer dans les sables mouvants d'un scepticisme général, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ainsi, on peut dire alors que le but du pape dans cette encyclique est de redonner à l'homme de notre époque une authentique confiance dans ses capacités de connaître. Oui, le pape veut lancer à la philosophie le défi de retrouver et de développer sa pleine dignité, dit le pape. Autrement dit, la philosophie doit renouer avec sa vocation, avec sa capacité de rejoindre les réalités ultimes, c'est-à-dire les grandes réponses aux questions mentionnées tout à l'heure. Mais afin de poser la question du rapport entre la foi et la raison, il est bien nécessaire, il me semble, c'est le pape le dit d'ailleurs, de comprendre aussi la nature de la révélation, la nature de ce qu'il y a dans la Bible, dans la tradition, cette révélation par laquelle la vérité profonde sur Dieu, aussi bien que sur le salut ou la libération de l'homme, se met à briller pour nous dans le Christ. Le Christ qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. Parce que lire la Bible, suivre ce que nous enseigne la tradition de notre Sainte Église, ça ne peut que nous conduire au Christ vivant ressuscité et à l'aimer profondément. Parce que c'est lui qui est la plénitude de toute révélation. Les saints se sont laissés prendre, et saint Paul le dit bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et voilà ce qu'entreprend de faire le pape. Bon, au début, dans son encyclique, c'est par la révélation que nous est offerte la vérité ultime sur notre vie et sur le destin de l'histoire. Car comment vivre tout ça en dehors de cette perspective? Le mystère de l'existence personnelle reste une énigme absolue si on sort de tout ça. On ne sait plus pourquoi on vit. La révélation, dit le pape, introduit donc dans l'histoire un point de repère que l'homme ne peut ignorer s'il veut arriver à comprendre le mystère de son existence. Et ainsi, on peut dire que la Bible et la tradition incite la raison humaine à ne jamais s'arrêter. Elle incite la raison humaine à élargir continuellement, dit le pape, les champs de son savoir, en se laissant guider par plus grand qu'elle. De ce fait, si la révélation est reçue dans la foi comme un don gratuit de Dieu, elle demande aussi, pour être vraiment accueillie, l'utilisation de la raison humaine. Ça revient toujours à ça. Et c'est l'essentiel de son enseignement. Soyons intelligents dans notre foi et sachons raisonner avec cet instrument, la raison que Dieu nous a donné. Et aujourd'hui, il est question de Jean-Paul II et de son encyclique qui date d'un an, de cette date de 1998, n'est-ce pas? Le 14 septembre. Foi et raison. Fides et ratio, en latin. Il écrit à un moment donné, à l'origine de notre être de croyant, se trouve une rencontre unique en son genre qui a fait s'entrouvrir un mystère caché depuis des siècles. Il s'inspire de la Bible en parlant dans ces mots-là. Mais, dit-il, ce mystère est maintenant révélé. Il a plu à Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler lui-même, et de faire connaître le mystère de sa volonté, par lequel les hommes ont accès auprès du Père par le Christ, vers Fécher, dans l'Esprit-Saint. Et ils sont rendus participants de la nature divine. Participants de la nature divine. C'est difficile à comprendre, mais c'est grand. Et c'est beau, cette révélation. Et le pape ajoute, c'est là une initiative pleinement gratuite qui part de Dieu pour rejoindre l'humanité et la sauver, l'arracher à la platitude, à l'inquiétude sans but, à la noirceur. La sauver. La plonger dans l'amour, quoi. Le pape ajoute, en tant que source d'amour, Dieu désire se faire connaître. Et la connaissance que l'homme a de lui porte à son accomplissement toute autre vraie connaissance que son esprit est en mesure d'atteindre sur le sens de son existence. Plus loin, il dit au premier concile du Vatican, donc au siècle dernier, les pères du concile, les évêques, avaient souligné le caractère surnaturel de la révélation de Dieu quand Dieu se révèle dans la Bible et la tradition. Caractère surnaturel. Parce qu'il y avait une critique rationaliste qui se servait de sa raison d'une façon contraire à la foi, quoi. La critique rationaliste qui s'attaquait alors à la foi, dit le pape en partant de thèses erronées et très répandues, portait sur la négation de toute connaissance qui ne serait pas le fruit des capacités naturelles de la raison. Et ce fait avait obligé le concile à réaffirmer avec force que, outre la connaissance propre de la raison humaine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais capable par nature d'arriver jusqu'au Créateur, il existe une connaissance qui est propre à la foi. Et cette connaissance, très belle, exprime une vérité fondée sur le fait même que Dieu se révèle. Et c'est une vérité très certaine, car Dieu ne trompe pas et ne peut pas tromper. Encore faut-il savoir interpréter les textes. Sous la conduite de l'Esprit-Saint, donc sous la conduite de l'Église. Le pape rappelle que la foi permet de mieux comprendre les vérités de la raison. Car la raison ne peut connaître le monde sans y découvrir par la foi la présence agissante de Dieu qu'on appelle à ce moment-là la Providence. Ainsi, il ne peut exister, dit le pape, aucune compétitivité entre la raison et la foi. Ça se combat pas, ça. Il le répète encore. L'une s'intègre, dit le pape, à l'autre, la raison et la foi, et chacune a son propre champ d'action. Et la raison et la foi ne peuvent être séparés sans que l'homme perde la possibilité de se connaître lui-même, dit le pape, de connaître le monde et Dieu de façon adéquate. Dans son épître aux Romains, saint Paul, vous devez connaître ça, approfondit l'apport de ce qu'on appelle l'ancienne alliance, là, dès le début de l'humanité, en expliquant comment, donc dès le début de l'humanité, l'homme a été blessé dans sa capacité à rejoindre rationnellement la source même de la vérité. Mais l'homme a été guéri par la venue du Christ. La raison, quand même, reste confrontée. Oui, elle est confrontée tout le temps, notre raison, au défi que représente pour elle, quoi, le scandale de la croix. Qu'est-ce que c'est ça, le scandale de la croix? C'est ce scandale que la souffrance mène à un développement de l'homme. Vous direz pas du tout, la souffrance, elle écrase l'homme. La souffrance le détruit. Et c'est vrai, d'ailleurs, dans un sens. Mais quand on voit de grands souffrants qui ont le sourire aux lèvres, parce que leur foi est vivante, c'est là qu'on se dit, ma foi est trop petite. Car si je tombais dans l'état où il est, je serais probablement révolté. Oh, la révolte n'est pas une mauvaise chose en soi à un moment donné, de crier vers Dieu, « Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? » C'est normal, mais vient un moment où par la grâce, justement, des sacrements de Dieu, on en arrive à s'adoucir en criant, et on crie moins, et tout à coup on dit, « Oh mon Dieu, je t'aime. » et je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. » Et le pape dit, « La raison ne peut pas vider le mystère d'amour que la croix représente, tandis que la croix peut donner à la raison la réponse ultime qu'elle cherche, à condition que la raison accepte le défi. » Et ainsi, dit le pape, « Le rapport entre la foi et la philosophie trouve dans la prédication du Christ crucifié et ressuscité, l'écueil contre lequel il peut faire naufrage, mais au-delà duquel il peut se jeter dans l'océan infini de la vérité, comme je viens de vous le décrire. » En des termes beaucoup plus naïfs peut-être de ma part. Alors après avoir montré que la foi féconde et dilate l'intelligence humaine, le pape établit que ce nouveau, dans un nouveau chapitre, je comprends pour croire, in te lego ut credam, je comprends pour croire que l'intelligence ne peut assouvir sa quête que par un acte de foi. On le voit bien par la littérature, la musique, la peinture et la sculpture, puis tous les autres arts, et spécialement aussi par la philosophie. L'homme a toujours exprimé le désir et la nostalgie de Dieu, au fond. C'est ce que je trouve, mettons, dans les films d'Antonioni, dans les films de Bergman, dans toutes sortes d'œuvres athées, comme celle de Jean-Paul Sartre. C'est cette espèce de nostalgie, ce désir de Dieu. Et tant sur le plan théorique de la connaissance que sur le plan pratique du bien à accomplir, l'homme est un chercheur de vérité. La femme aussi, évidemment. Et non pas une vérité partielle, là, subjective, une petite vérité de rien du tout. Non, non. Une vérité universelle, c'est ça que l'homme cherche. Où, dit le pape, ce qui est vrai doit être vrai pour tous et pour toujours. Mais au-delà de cette universalité, là, où tous les hommes recherchent et désirent cette vérité, l'homme cherche, dit le pape, un absolu. Un absolu qui soit capable de donner réponse et sens à toute sa recherche. Quelque chose d'ultime, qui se place comme fondement de toute chose. Et alors qu'il s'agisse de vérités fondées sur des évidences immédiates, de vérités scientifiques ou philosophiques, là, ou des vérités religieuses, mais la recherche de la vérité, oui, la recherche de la vérité s'accompagne toujours d'un acte de foi, et le pape l'explique bien, il dit, l'homme est donc celui qui vit de croyance, car dans la vie d'un homme, les vérités simplement crues demeurent beaucoup plus nombreuses que celles qu'il acquiert par sa vérification personnelle, et ainsi, l'homme n'est pas capable de tout vérifier par lui-même. Il est nécessaire alors qu'il accorde sa confiance à autrui. Et c'est ce que nous faisons, nous, catholiques. En croyant, l'homme s'en remet à la vérité que l'autre lui manifeste. Et c'est ainsi que nous gardons cette unité du corps mystique du Christ. Si nous accordons notre confiance à autrui. D'ailleurs, Jean-Paul II récapitule sa pensée, il dit « L'homme est engagé sur la voie d'une recherche, humainement sans fin, d'accord, c'est sans fin cette recherche, recherche de vérité, et recherche d'une personne à qui faire confiance. » Oui, à qui faire confiance, à qui, hein, c'est le problème. De ce fait, la quête humaine d'une vérité, une vérité ultime, n'est pas atteinte seulement par la voie de la raison, mais aussi par une confiance dans le témoignage d'autrui. Mais la vérité révélée en Jésus-Christ, puis les vérités philosophiques ne sont pas contradictoires. Les deux ordres de connaissance conduisent au contraire à la vérité dans sa plénitude, dit le pape, et l'unité de la vérité est déjà un postulat fondamental de la raison humaine. Et étant donné que la vérité révélée, qui nous est révélée, est aussi une vérité comprise à la lumière de la raison, comme je vous le dis toujours, comme le pape le répète, bien, il en arrive à la charnière de son encyclique, qui se penche sur l'étude des rapports entre la foi et la philosophie, c'est un peu complexe, mais tout d'abord, le pape entreprend de faire l'historique, là, des étapes. Les étapes importantes, là, de la rencontre entre la foi et la raison, puis au début du temps de l'Église, les chrétiens, on le sait, hein, ont noué leur réflexion avec la philosophie grecque des liens féconds, on voit ça chez les pères de l'Église. L'un des efforts des philosophes a été de purifier de ces formes mythologiques là, la conception que les hommes se faisaient de Dieu il y a 2000 ans. Mais, dit le pape, la rencontre du christianisme avec la philosophie, ça n'a pas été immédiat, ça n'a pas été facile. Car pour les chrétiens, le devoir premier et pressant, c'était quoi? Ça doit l'être aujourd'hui encore. L'annonce du Christ ressuscité, vivant et qui nous aime, et que nous pouvons aimer, si l'Esprit Saint est en nous. Alors, on voit les pères d'Orient et d'Occident, au début de l'Église, là, tout en utilisant la pensée grecque et particulièrement Platon, lui font subir de grandes transformations. C'est le cas de saint Augustin qui est à l'origine de la forme la plus haute de, on pourrait dire, de spéculation philosophique et théologique. Puis, dans la théologie catholique, le rôle, ou dans la théologie scolastique, si vous voulez, le rôle de la raison éduquée par la foi devient encore plus considérable. Je vous en ai glissé un mot, hein. Ce chemin de la rencontre entre la foi et la raison, il est illuminé par qui? Par quel grand saint? Vous le savez, c'est par saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin. Qui a eu, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, qui a eu le mérite, lui, saint Thomas d'Aquin, il y a bien des siècles, 7 siècles, de mettre au premier plan l'harmonie qui existe entre la philosophie et la théologie. Oui. Et alors, parce que la lumière de la raison et celle de la foi viennent toutes les deux de Dieu, notre raison, elle vient de Dieu, si on l'utilise comme il faut. Et la foi vient de Dieu. Mais elles ne peuvent se contredire, puisqu'elles viennent toutes les deux de Dieu. De même que la grâce suppose la nature, ainsi la foi suppose la valeur de la raison. Vous, c'est réciproque. Et il se fie à ses capacités tout en la perfectionnant. La foi ne craint pas la raison, mais elle la recherche. Et elle s'y fie. Il faut noter ici qu'il s'agit évidemment de la raison droite, celle qui réfléchit correctement sur le vrai. C'est pas n'importe quelle raison où on prend de la drogue pour la faire dérailler. De ce fait, la raison éclairée par la foi, dit le pape, est libérée de toutes sortes de fragilités et des limites qui proviennent de la désobéissance du péché. Et elle trouve la force, notre raison, la force nécessaire pour s'élever jusqu'à la connaissance du mystère de Dieu, un et trine. Et après saint Thomas d'Aquin, puis à partir de la fin du Moyen Âge, la distinction légitime opérée entre la raison et la foi se transforme en une séparation pénible, et puis la foi est séparée de la raison, mais à cause d'un esprit excessivement rationaliste, présent chez quelques penseurs, dit le pape. Les positions se radicalisent. Il y a une opposition entre la raison et la foi depuis des siècles. Au point d'arriver, dit le pape, en fait, à une philosophie séparée, absolument autonome, vis-à-vis du contenu de la foi. Et ainsi, on peut dire qu'une bonne partie de la philosophie moderne s'est développée en s'éloignant de la révélation chrétienne. C'est le drame de notre société, c'est le drame de notre époque. Parce que même la raison s'oppose à la foi, et c'est le cas de l'idéalisme, du positivisme, du nihilisme, et ça a donné le marxisme aussi. La philosophie est de moins en moins une sagesse et un savoir universel. Et le pape dit bien, elle a été progressivement réduite, la philosophie, à n'être qu'un des nombreux domaines du savoir humain. Bien plus, par certains aspects, elle a été cantonnée dans un rôle totalement marginal. Alors on assiste incontestablement, il me semble, à une séparation qui va toujours en grandissant entre la foi et la raison philosophique. C'est un appauvrissement de la théologie et de la philosophie surtout. Et le pape croit que la raison privée de l'apport de la révélation a pris des sentiers terribles. Terribles. Puis la foi, privée de la raison, a mis l'accent sur le sentiment. Le sentiment, le sentiment. L'expérience aussi, dit le pape, en courant le risque de ne plus être une proposition universelle. Et la foi devient sectaire. et ça se répand toutes sortes de petites églises, de toutes sortes de noms, ou bien à l'intérieur de l'Église, dans toutes sortes de positions, d'où l'appel pressant du pape afin que la foi et la philosophie, dans l'Église en tous les cas, retrouvent l'unité parfaite qui les rend capables, enfin, d'être en harmonie avec leur nature, dit le pape, dans le respect de leur autonomie réciproque. Sans cela, on verra encore les sexes se multiplier davantage et ça n'en finira plus. Dans ce très bel encyclique du pape Foi et Raison, il ose dire à un certain moment des choses qui vont en surprendre. Il dit, une première règle consiste à tenir compte du fait que la connaissance de l'homme est un chemin qui n'a aucun répit. On avance toujours. Hein? La deuxième naît de la conscience que l'on ne peut s'engager sur une telle route avec l'orgueil de celui qui pense que tout est le fruit d'une conquête personnelle. Puis une troisième règle, dit le pape, est fondée sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu, je dirais. La crainte de le blesser. Dont la raison doit reconnaître la souveraineté transcendance de Dieu. Et le pape ajoute, et en même temps, l'amour prévoyant dans le gouvernement du monde. Dieu a un amour prévoyant. Et il ajoute, quand il s'éloigne de ses règles, écoutez bien ça, l'homme s'expose au risque de l'échec et finit par se trouver dans la condition de l'insensé. Dans la Bible, cette stupidité comporte une menace pour la vie. L'insensé, en effet, s'imagine connaître beaucoup de choses, mais en réalité, il n'est pas capable de fixer son regard sur ce qui est essentiel. Cela l'empêche de mettre de l'ordre dans son esprit et de prendre l'attitude qui convient face à lui-même et à son environnement. Et le pape ajoute, et quand il en arrive à affirmer « Dieu n'existe pas », on voit ça dans le psaume 14, il montre en toute clarté que sa connaissance est déficiente et combien elle est loin de la pleine vérité sur les choses, sur leur origine et sur leur destinée. Le livre de la sagesse, ajoute le pape, vous connaissez ça, le livre de la sagesse dans la Bible, c'est si beau, comporte des textes importants qui projettent une autre lumière sur ce sujet. L'auteur sacré, écrit avant Jésus-Christ, hein, le livre de la sagesse, l'auteur sacré y parle de Dieu, qui se fait connaître aussi à travers la nature. Quand on voit à la télévision, comme dans ce film sur le pape, diffusé par PBS ce soir à 8h, eh bien, c'est bouleversant. À travers la nature, à travers les galaxies immenses, on nous les montre grâce au télescope Hubble. Pour les anciens, l'étude des sciences naturelles correspondait en grande partie au savoir philosophique, dit le pape. Après avoir affirmé que par son intelligence, l'homme est en mesure de connaître la structure du monde et l'activité des éléments, les cycles de l'année, puis les positions des astres, puis la nature des animaux, puis les instincts des bêtes sauvages. On voit ça dans le livre de la sagesse, au chapitre 7. En un mot, que l'homme est capable de philosopher, le texte sacré du livre de la sagesse accomplit un pas en avant de grande importance. Écoutez ça. Retrouvant la pensée de la philosophie grecque à laquelle il semble se référer, cet auteur, dans ce contexte, l'auteur affirme qu'en raisonnant sur la nature, on peut remonter au Créateur. Et il dit bien, et j'aime moi cette parole, la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Pour moi, c'est une évidence. Quand je vois une petite fleur qui sort de terre, je vois une sculpture vivante de Dieu. Vous direz que je capote et que ça peut s'expliquer par ci et ça, et puis l'évolution, puis on n'en finit plus. Mais cette évolution est sous la conduite de Dieu. Moi, c'est mon point de vue, et je le donne pour ce qu'il vaut. Le pape dit à la fin, je tiens à conclure cette encyclique en m'adressant, encore une fois, surtout aux théologiens, afin qu'ils accordent une attention particulière aux implications philosophiques de la parole de Dieu et qu'ils mènent une réflexion qui fasse ressortir la densité spéculative et pratique de la science théologique. C'est ça qui est bien oublié souvent dans nos facultés. Et le pape dit, je voudrais les remercier de leur service ecclésial. Le lien intime, dit le pape, entre la sagesse théologique et le savoir philosophique est une des richesses les plus originales de la tradition chrétienne pour l'approfondissement de la vérité révélée. À tous, dit plus loin le pape, je demande de considérer dans toute sa profondeur l'homme que le Christ a sauvé par le mystère de son amour. Sa recherche constante de la vérité et du sens, hein, c'est ce qui nous manque le plus de nos jours. Il ajoute divers systèmes philosophiques faisant illusion, l'ont convaincu qu'il est le maître absolu de lui-même, qu'il peut décider de manière autonome de son destin et de son avenir en ne se fiant qu'à lui-même et à ses propres forces. Et le pape dit, la grandeur de l'homme ne pourra jamais être celle-là. Pour son accomplissement personnel, seule sera déterminante la décision d'entrer dans la vérité en construisant sa demeure à l'ombre de la sagesse et en l'habitant. C'est seulement dans cette perspective de vérité qu'il parviendra au plein exercice de sa liberté, oui, et de sa vocation à l'amour et à la connaissance de Dieu, suprême accomplissement de lui-même. Quel grand pape nous avons qui nous rappelle ces vérités fondamentales dans des phrases ciselées qui nous percent le cœur comme un glaive. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les médite? Eh bien, on peut l'acheter, cette encyclique. Elle se vend dans les librairies. Je vous le recommande. Ici Raymond Beaugrand-Champagne, qui tenait à vous faire, pour une fois, un exposé bien simple et bien bref sur une très grande encyclique, « Foi et raison » de Jean-Paul II.